Je vous invite à rejoindre l'apôtre Jean, pour la dernière fois en tout cas, en ce qui concerne sa première lettre. Je vous invite à reprendre la lecture de cette lettre dans le chapitre 5, donc des versets 13 à 21, qui sont donc les derniers de son épître. Je vous ai écrit cela, donc tout ce qu'il a écrit. À vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché qui ne conduisant pas à la mort, il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pèche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Christ, au vrai Dieu, si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Je vais faire un amalgame des deux. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, dernière injonction, gardez-vous des idoles. Alors, je ne vais pas, à votre grande âme, je suppose, m'apesantir sur la nécessité de prier et même d'intercéder pour ceux qui pêchent, qui désobéissent à la volonté de Dieu. Je pense que nous avons également tous bien compris que pour être et rester dans la volonté de Dieu, il faut, comme le Seigneur le dit lui-même, prier dans le nom de Jésus, en son nom. Je pense que là, tout est dit. Ce qui signifie littéralement avoir le même cœur, les mêmes priorités, les mêmes désirs que Jésus. Et si c'est le cas, le Père vous répondra. Donc pas d'égoïsme, pas d'égocentrisme, le royaume d'abord, rien que le royaume, toujours le royaume. On peut donc résumer ceci. Avoir le désir profond, c'était la pensée de Jésus, de voir la volonté du Père se réaliser dans notre vie, dans la vie de ses enfants, comme dans celle de ses ennemis. Toutes ces personnes font partie de ce que Jésus désigne comme étant sur la terre dans la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme aussi. Alors, sur la terre et à qui ? À nous, ses enfants. C'est à nous à faire sa volonté ici-bas. Si vous faites sa volonté, autrement dit, si vous mettez en pratique ce que Jésus enseigne, vos prières seront entendues par le Père et votre Père vous exaucera. Elle n'est pas belle la vie, hein ? En revanche, ce ne serait pas drôle, hein ? Jean nous dit de ne pas prier pour ceux ou celles qui commettent le péché, qui mènent à la mort, ou pour être plus proche du grec, ou pour la mort. Jean semble nous inviter à ne pas nous fatiguer inutilement à prier en faveur de quelqu'un qui aurait commis le péché impardonnable, le seul, apparemment, d'après l'apôtre. Alors, je suppose que vous avez compris. De quel péché parle-t-il ? Ça, c'est la question à 20 balles. Autant vous le dire d'emblée, comme ça vous serez apaisé tout de suite. Les théologiens ne sont pas d'accord entre eux, ce qui ne serait pas drôle si un jour ils arrivaient à l'être. Quand vous décidez d'être théologien, vous décidez de n'être d'accord avec personne, à part avec vous-même, sans doute. Ils ne sont pas d'accord entre eux, donc ce que ça semble indiquer qu'il faut peut-être manipuler ce texte, et d'autres d'ailleurs, avec prudence dans ce qu'on va affirmer à ce sujet. Parce que c'est assez terrible ce que j'en dis. Il y aurait donc d'après lui un péché impardonnable. Alors les lecteurs, ça arrive parfois dans la Bible, les lecteurs de Jean n'avaient pas besoin que celui-ci précise sa pensée, apparemment ils sont au courant, ils ont de la chance, parce que nous pas du tout. Ce n'est pas notre cas. Donc, la seule donnée objective et biblique que nous possédions, c'est l'Ancien Testament. Jean est juif. Qui nous la donne. Et cet élément crucial, et ça ne va pas vous rassurer non plus sans doute, c'est que tout péché est volontaire. Je sais que la pensée de Dieu est à gauche, je prends à droite, mène à la mort. Nombre 15, verset 30-31. Mais si quelqu'un qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée. Autrement dit, il pêche délibérément. Il insulte l'Éternel, ou il blasphème l'Éternel. Il sera exclu du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, il sera exclu, il supportera les conséquences de sa faute. Alors cette traduction, comme beaucoup d'autres, vont dans ce sens, il sera exclu. C'est bien gentil, mais l'hébreu a trois fois dans ce verset, ici on a le terme qu'une fois, dans l'hébreu, le verbe retrancher vient trois fois. Retrancher, c'est dans la théologie de l'Ancien Testament, c'est quick. Donc l'étranger, le non-juif qui ne se soumet pas aux lois d'Israël en résidant en Israël, lui, il est exclu. Il était sans doute simplement exclu. Il recevait son ordre, mandat de quitter le territoire. On connaît, hein. Le juif, par contre, il était probablement mis à mort. Et quand vous regardez les sacrifices dans l'Ancien Testament, vous n'en trouverez pas pour le péché volontaire. Il n'y en a pas. Les juifs n'étaient pas supposés pécher volontairement. En connaissance de cause. Ça, c'est quand même interpellant. Respirez, hein, ça va aller quand même, hein, je vous rassure. La conséquence en question de n'importe quel péché volontaire semble donc être bel et bien la mort. La loi de Moïse, vous le savez sans doute, distingue d'ailleurs les péchés inconscients ou par erreur, de celui dont nous parlons, donc du péché volontaire. Donc, dans l'Ancien Testament, le péché pour la mort ou qui mène à la mort est celui que l'on commet délibérément. C'est là, je pense, qu'il nous faut déjà remercier notre Seigneur de ne plus être sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle. Enfin, on serait tous morts, en fait. Alors, je ne dis pas que dans l'Israël ancien, ils n'aient jamais mis ça à l'exécution. Ça, je n'en sais strictement rien. On ne pourrait pas le savoir. Il n'y a pas de vestige archéologique du domaine. On n'a pas retrouvé des crânes fracassés par des pierres à des endroits particuliers sur le territoire d'Israël. Je ne sais pas si ces textes terribles étaient effectivement mis en application. Je n'en sais rien. Ce qu'il faut nous rappeler, en tout cas, en tant que chrétiens, c'est que Jésus est mort en portant ces péchés-là aussi, et j'ai envie de dire surtout les péchés volontaires. C'est ce que Paul dit en Romains 6, entre autres. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, c'est pas pète plein. Il est juif, Paul, il sait de quoi il parle. Hein. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Et je pourrais m'arrêter là. Ce que je ne ferai pas, évidemment. Ça va mieux déjà? C'est un peu rééquilibré? Ok. Je suis quand même gentil comme mec, hein, non? Ça me rassure aussi. Hein, voilà. La question se pose donc ici, si ce péché particulier existe bel et bien, parce que Jean est dans la Nouvelle Alliance quand il écrit, hein, pas dans l'Ancienne, comment faire preuve de discernement afin de ne pas prier pour la personne commettant ce péché? Parce qu'on peut le prendre le truc à l'envers. Tu veux dire, mais quel est ce péché? Dire, oui, si moi je ne peux pas prier pour quelqu'un qui commet ce péché, peut-être que je sache de quel péché il s'agit. Et puis vous êtes sûr de ne pas l'avoir déjà commis ce péché-là, vous? Vous ne savez pas, hein? Moi non plus. Hein? Si ça tombe, on l'a tous commis, on est tous foutus. Hein? S'il faut suivre. Okay? J'ai quand même un air à... Hein? C'est vrai, hein? Oh, j'aurais été ma vocation, hein, quand même. J'aurais dû être pasteur. Bon. Donc, ne sommes-nous vraiment certains, et ce n'est pas ce qui va nous venir en premier en lisant ce texte de Jean, mais sommes-nous vraiment certains de ne pas l'avoir commis, ce péché-là? Comment notre Seigneur, autre question, ça en fait beaucoup, vous me direz, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Comment notre Seigneur pourrait-il nous laisser dans une pareille ignorance concernant une chose aussi capitale? Si c'est aussi grave que ça, s'il y a un péché qu'il ne faut surtout pas commettre, et que si quelqu'un le commet, il ne faut même pas se fatiguer à prier pour lui, il est foutu, on va le dire comme ça, comment se fait-il que la Bible ne soit pas plus claire? Alors, j'ai envisagé l'hypothèse, parce que c'est ce que je fais le mieux, dans le cadre de notre lettre, contexte aidant, je l'avais déjà évoqué en commençant la lettre, hein, parce qu'il en parle déjà au début de sa lettre, Jean, si vous vous en souvenez. J'avais envisagé l'hypothèse que ce péché impardonnable serait le refus d'aimer. Alors, ça paraît gros, mais croyez-moi, Je pense que c'est le péché qu'on commet le plus, en fait. C'est le refus d'aimer. Déjà, quand vous sélectionnez qui vous aimez, vous refusez d'aimer. Celui-là, oui, celui-là, non, non, celui-là, non, ben, on ne le dit pas comme ça, mais on le vit comme ça. Déjà là, si c'est le bon chemin à suivre, le refus d'aimer, on est tous dedans. Alors, on peut l'approcher d'une autre manière. Si ce péché consiste à refuser d'aimer, on pourrait envisager que cette personne ne soit pas chrétienne dans le contexte de l'épître de Jean. Pourquoi je dis ça ? Parce que Jean, il parle d'une chose pendant 5 chapitres, c'est l'amour de Dieu et la nécessité, puisque Dieu est amour, de nous-mêmes baigner dans l'amour, exprimer de l'amour envers le monde et envers surtout nos frères et sœurs dans la foi. Donc, cette personne n'est forcément pas chrétienne si elle est dans un refus perpétuel d'aimer. Alors c'est moins grave, cette personne est perdue, dans le sens biblique du terme, elle ne connaît pas Dieu. La solution, qu'elle vienne vers Dieu, elle le connaîtra et elle apprendra à aimer comme tout le monde, comme tous ses enfants. Si c'est ça, on peut respirer un petit peu, mais je n'en suis pas sûr, c'est mon approche. Et pour faire simple, mon approche a des faiblesses théologiques.
Oui, je suis honnête quand même.
Donc c'est moi qui dis, c'est pas le Saint-Esprit. Ça arrive qu'on soit dissocié, moi et lui. Hein. C'est relativement rare, mais parfois ça m'arrive de ne pas toujours dire tout ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Donc cette approche comporte des faiblesses. L'autre donnée biblique à laquelle on pourrait éventuellement relier notre passage de Jean, Jean qui ne cite pas le péché, hein, je rappelle, hein, est cette parole prononcée par Jésus à l'encontre des scribes et des pharisiens. À partir de cette parole, je ne vais pas donner une explication, je vais dégager un principe. Ce qui, en théologie et dans la vie chrétienne pratique, parce que c'est, je pense, que ce qui devrait nous intéresser le plus, vivre ce que Jésus nous dit, c'est fondamental de dégager, me semble-t-il, ce principe. Alors, je vais prendre ce texte, je pense que vous connaissez tous. C'est un autre péché terrible, le péché contre le Saint-Esprit. Est-ce donc de ce péché-là que Jean parlerait ? Et il ferait une sorte de lien avec ce que son maître a enseigné sur le sujet. Et là, quand on a tous le Saint-Esprit, on se dit tous « Ouf, je ne suis pas concerné par ce péché qui mène à la mort. » Malheureux que vous êtes. Bon, Marc 3, versets 22 à 30. Les spécialistes de la loi, donc les théologiens de l'époque, oh, théologiens quand même, hein, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il a en lui Belzébul. » Donc, il parle de Jésus. Hein. « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Belzébul, ça veut dire le dieu des mouches, hein, en hébreu. En hébreu, ouais, ça veut dire dieu des mouches. Donc, c'est une façon de se moquer du diable, en fait. Hein. C'est un vocabulaire qu'on avait adapté, qu'on avait approprié. Je ferme la parenthèse, ça n'a pas beaucoup d'importance. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. » Je ne parle pas de la Belgique, hein, ici, je précise. « Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. » Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, mais ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Bon, insulter Dieu, quoi, pour faire simple. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parle de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». La question est donc posée, peut-on faire un lien entre les deux textes ? Jean parle-t-il du même péché que Jésus sans le nommer et en dehors de tout contexte ? Alors si ce n'est pas le cas, si on ne peut pas les relier, nous voici donc avec 2 péchés impardonnables sur les bras et pas un. Alors que Jésus dit qu'il n'y en a qu'un. La vie d'étudiant de la Bible est quand même un peu compliquée parfois. Non ? C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens qui ne la lisent plus. Oh, ça m'a échappé. Précisons pour commencer le contexte de cette parole terrible de Jésus. Parce qu'elle est terrible, hein, nous sommes bien d'accord. Il ne faut pas nier l'évidence non plus. Hein. Les responsables spirituels du peuple d'Israël attribuent au diable le pouvoir par lequel Jésus libère les captifs de leur possession démoniaque. Alors, la première remarque que j'aimerais faire d'emblée, en se basant sur ce que Jésus dit, c'est que l'on peut blasphémer le nom de Dieu. On a le droit. C'est moi qui le dis, c'est Jésus. Et nous verrons pourquoi, du moins à mon sens. Par contre, il rajoute qu'il est un blasphème que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, il est, je pense, peu de passages du Nouveau Testament qui aient autant tourmenté les chrétiens. Et si pas, ça devrait les tourmenter. Alors, une question me vient à l'esprit pour commencer. En quoi le blasphème contre le Saint-Esprit peut-il se distinguer du blasphème contre Dieu ? Quelle différence peut-il bien y avoir entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit quand on en vient au blasphème ? Puisqu'il n'y a que le Saint-Esprit qu'on ne peut pas blasphémer, ça veut dire que le Père, on peut y aller, et le Fils aussi. Je ne fais pas de la dialectique, là, c'est ce que Jésus dit. Mais c'est peut-être pas à ça qu'on pense, mais ça veut dire, Saint-Esprit, je ne peux pas le blasphémer, mais par contre, le Père, Dieu lui-même, ou le Père et le Fils, ça, allons-y, gaiement. Non, mais c'est vrai, je suis sérieux, hein. Cela tient sans doute à la réalité des choses et à la révélation que Dieu fait de lui-même. Je m'explique. De tout temps, y compris des nôtres, l'homme a blasphémé. On blasphème le nom de Dieu, du Père, depuis des millénaires. On n'a jamais arrêté, en fait. Nous l'avons fait sans doute, nous aussi, à une époque de notre vie, en lui réclamant simplement, et même en tant que chrétien, en lui réclamant des comptes, quand la vie ne ressemblait pas à celle que l'on voulait vivre. Je parle pour les chrétiens, là-même. En nous manquant de lui à un autre, peut-être. Mes amis, ça fait partie du péché d'ignorance. C'est un péché d'ignorance, hein, mais c'est d'ignorance. On blasphème ce qu'on ne connaît pas. On se moque de ce en quoi on ne croit pas. Et ce péché-là, dit Jésus, est pardonnable. Par défaut, il dit, ben ça, c'est pardonnable. Vous ne savez pas, vous êtes idiot. Ça, la bêtise, c'est pardonnable. C'est d'ailleurs sans doute pour ce péché-là que Jésus prie son Père sur la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Donc, je te prie pour que tu leur pardonnes. Merci quand même au Seigneur Jésus d'avoir fait cette prière, mes amis. On ne se rend pas compte s'il serait passé s'il ne fait pas cette prière. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Parce qu'il y a des sandwichs après. Alors c'est soit les sandwichs, soit c'est moi. Je pense que vous préférez les sandwichs, hein, frère. Ouais. Il est d'ailleurs frappant qu'en attribuant à Jésus une connivence avec le diable, Jésus ne se soit pas senti insulté, parce que c'est quand même une solide insulte lancée à la face de Jésus. Hein. Tu chasses les démons par la puissance du diable. Vous vous rendez compte ? Il est le Fils de Dieu, quoi. Il prend pas mal pour lui-même, Jésus. Ben déjà parce qu'il est humble. Et Dieu est humble, c'est ce qu'enseigne la Bible. Le Père est humble, le Fils est humble. Les gens humbles, vous savez, les insultes, c'est vraiment pas un problème. Les louanges, je crois que c'est Basile le Grand qui disait « J'ai rencontré des gens qui tenaient sous l'insulte, sans broncher. J'en ai jamais connu qui tenaient sous la louange. » C'est fort, hein, ça. Père de l'Église, hein, Basile le Grand. Je vous conseille sa thérapeutique, hein, 18 volumes. On est vraiment malade pour qu'il écrit 18 volumes. Hein. Bon. De toute évidence, donc, ces gens, quels qu'ils soient, ils peuvent blasphémer le Fils. En effet, qu'est-ce qu'ils ont en face de lui, ces hommes qui disent que Jésus chasse les démons au nom du diable ? Ben, ils ont le Fils de l'homme, hein, un homme, en somme. Comment pourrait-il savoir et comprendre qu'il est ici plus qu'un rabbin, plus qu'un original, plus qu'un exorciste, plus qu'un prophète ? Bien plus qu'il y a Dieu. Son humanité voile sa divinité. Ça n'est pas une excuse, mais c'est un fait. Et Jésus accepte ce fait. Quand quelque chose de nouveau survient, quelque chose qui nous bouscule, qu'on ne comprend pas, on en revient toujours à ses bases. À ce que l'on croit savoir, tout simplement parce que cela sécurise. C'était le processus à l'œuvre sans doute en partie dans le cœur de ces enseignants de la loi. La divinité de Jésus est voilée par son humanité et c'est la raison pour laquelle il prie son Père de pardonner à ceux qui ne l'ont pas reconnu, à ceux qui ont combattu son message, à ceux qui l'ont crucifié, présent à l'époque et à venir. Il ne savait pas, il ne comprenait pas. On est inclus dans cette prière de Jésus sur la croix, on ne serait pas là. C'est aussi pour nous qu'il a prié. En revanche, dit-il, le blasphème contre la troisième personne de la Trinité, contre celui qui doit encore venir en ce monde et faire son habitation en ceux qui croient, est impardonnable. Pourquoi ? Parce que le rôle, c'est moi qui dis, parce qu'à mon sens, le rôle de l'Esprit-Saint est justement de révéler ce qui est caché, de rendre visible ce qui est invisible aux hommes, la réalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui donne une connaissance directe du Dieu Père et Fils. Sans l'Esprit-Saint, vous n'avez pas cette connaissance. Blasphémer contre l'Esprit, c'est blasphémer contre Dieu en tant qu'il se révèle. Car alors l'homme n'est plus aveugle, il voit. Et c'est pourquoi alors, quand il blasphème son péché, comme le dit Jésus, est impardonnable. Rappelez-vous cette parole en Jean 9. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, il dit ça toujours aux enseignants, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Et c'est pour ça que votre péché reste, que vous restez dans votre péché. Ce blasphème consiste ici à imputer l'œuvre visible de Dieu à Belzébul. Ce péché est donc éminemment grave, pardon. Même pour les responsables religieux eux-mêmes. Car il est possible que cette parole de Jésus veuille simplement dire que leur cœur devenait tellement dur qu'ils en arrivaient à se fermer à leur propre besoin de repentance, qui est l'œuvre principale que l'Esprit-Saint exécute, si je peux dire ça comme ça, envers les hommes. Les convaincre qu'ils sont perdus et pécheurs, et que le Christ est leur sauveur, comme il l'était de ces gens qu'ils dépossédaient, en quelque sorte. Ça revient donc à dire que le cœur de Jésus, leur parole, est habité par l'homme fort, par le diable, qui le fait agir à son profit. Jésus peut donc exprimer cette parole parce qu'en niant la réalité de la présence de Dieu dans la délivrance des êtres possédés, les blasphémateurs nient l'évidence de celui qui leur est révélé. Ils ont tout sous la main pour croire en Jésus et ils refusent de croire. On a donc, en quelque sorte, ici une transformation du bien en mal. Jésus, le bien incarné, l'amour de Dieu incarné, le Fils de Dieu, il libère les hommes parce qu'il les aime. Et les enseignants de la loi disent, tu les libères, donc tu emploies un principe de mal pour faire du bien. Il n'y a pas de bout. Ne demandez pas, je vais faire plus simple, le diable, il ne peut pas produire du bien. Il ne peut pas, même s'il voulait, il ne pourrait plus, il ne pourrait pas. L'enseignement de Jésus était un signe, toute la Bible le dit, tout le Nouveau Testament le dit. L'enseignement de Jésus était un signe, les guérisons miraculeuses en étaient un autre, et les exorcismes, vous voyez celui-ci, il commande même aux démons, en étaient aussi un signe. Il y aurait donc un péché qui ne puisse effectivement être remis. Nous ne saurions pas aborder cette question sans en poser deux autres. Et tout à l'heure, je reviendrai à cette notion de signe qui est importante. Il y a encore deux questions qu'il faut se poser. Ça fait beaucoup de questions, mais enfin, si vous voulez commencer à faire mousser le texte, il faut vous poser des questions. Moi, ça me fait toujours peur, les gens qui n'en posent pas, ou qui ne s'en posent pas. Première question. Si nous affirmons positivement que le blasphème contre l'Esprit est irrémissible, donc il est impardonnable, qu'est-ce que ça dit de nous, si on pense ça, de nous? La parole de Dieu, elle nous parle à nous. Alors c'est vrai, donc on dit, oui, il a blasphémé l'Esprit, il va en enfer. Voilà. C'est nous qui le disons, à la suite de Jésus. Alors c'est vrai que si on prend cette position-là, on aurait pour nous la clarté du texte, enfin, si on pouvait parler de clarté. Il existe un péché qui n'est pas remis, qui n'est jamais remis, et celui qui le commet se rend coupable d'un péché éternel. Ok. Youhou, voilà. Vous savez vivre avec ça, vous ? Votre meilleur ami, peut-être qu'il est dans le cas. Hein. Ça ne veut rien. Hein. Mais comment pouvons-nous prononcer de telles paroles, sinon justement en oubliant qu'elles s'appliquent à des hommes, à des femmes ? Sinon en traitant comme un simple thème théologique un terrible mystère qui devrait nous réduire au silence ou jeter dans la prière tout homme qui se trouve confronté à ce mystère. Si il faut appliquer à la lettre ce que Jésus dit, mes amis, laissez tomber votre travail et mettez-vous à plat ventre toute la journée pendant 24 heures sur 24 pour prier pour tous ceux qui éventuellement blasphémeront l'Esprit Saint, à commencer peut-être par vos propres enfants. En fait, en y réfléchissant, admettre cette parole, l'envisager comme possibilité absolue, c'est comme ça, c'est nous placer à notre tour dans la position des scribes, des enseignants de la loi, de ces hommes qui enfermaient leurs frères dans la prison d'une condition définitive. Et sans issue, ce sont des pécheurs. Et en les considérant comme pécheurs, s'estimer quitte envers eux. C'est ça le terrible. Où est l'amour là-dedans ? Lui, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Lui, il a blasphémé l'Esprit Saint. Ça veut dire, je me dissocie. Mais l'amour est plus présent. Là, je reviens à Jean. L'amour est plus présent là-dedans. Quand on se sent quitte envers qui que ce soit, on n'a plus de devoir envers personne. Le seul devoir qu'on doit aux gens qui sont dans cette situation à ce moment-là, c'est une condamnation sans appel. On les condamne, en fait. Donc, d'une situation périlleuse, je ne dis pas, et Jésus ne dit pas que cette situation n'existe pas, d'une situation périlleuse, mais peut-être passagère, car Dieu peut tout, il faisait, les scribes et les pharisiens, une position maudite et définitive. Ces gens sont des pécheurs, c'est terminé pour eux. Donc, si on suit cette logique-là, et c'est le danger, je pense que c'est l'articulation du texte, hein, si on suit cette voie-là, ce chemin-là, il va se passer un truc, c'est qu'on va faire exactement ce que faisaient les enseignants de la loi de Moïse à l'époque. On va se retrouver dans leur pompe, en fait. On va avoir le cœur dans le même état qu'eux. Personne n'a jamais dit que l'état du monde et des pécheurs dans ce monde est une chouette position. Elle ne l'est pas. Mais juger n'est pas dans notre essence, hein, mes amis. Ce n'est pas notre responsabilité. Et puis, n'est-ce pas tuer l'espérance ? N'est-ce pas là le pire des péchés que nous puissions commettre, sachant le Dieu qui est le nôtre ? S'il a commis tel péché, il est foutu, et puis voilà, on passe à un autre, hein. Parce que je suis un peu provocateur en disant ça, je le sais, hein, mais que faisons-nous d'autre quand nous admettons, dont tu es l'expérience, quand nous admettons qu'il y a un péché qui ne peut pas être pardonné ? Quelle chance pour ce pauvre Lot qu'Abraham ne se soit pas résolu à ce que son Dieu, qu'il avait appris à connaître, jette le bébé avec l'eau du bain. Il a intercédé Abraham. Hein. Je rappelle quand même dans le contexte du texte, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, mais que la décision de Dieu dans le texte était... prise, je détruis ces villes avec tous ces gens dedans. C'était irrévocable, comme la parole de Jésus. Ils sont foutus, c'est terminé. Alors on va dire, il ne faut même pas me parler de ça. Hein, comme Jean, ne parlez même pas de ça à Dieu, ça ne sert à rien. Et Abraham dit, attends, moi je te connais, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas punir le coupable avec l'innocent, ce n'est pas possible ça. Pas toi. Et il intercède. J'ai bégayé. J'ai inversé. J'ai pas besoin de l'Esprit Saint, moi j'ai Isabelle. Alors bien, merci ma chérie. Alors bien entendu, encore une fois, nous pouvons nous contenter de répéter les paroles prononcées par Jésus. Mes amis, il va falloir vraiment qu'on apprenne à ouvrir notre cœur, hein, avec nos oreilles en plus. Hein. Notre attitude resterait-elle la même s'il nous était révélé que c'est à nous qu'elles sont adressées, ces paroles. Encore une fois, je reprends. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces paroles ne nous concernent pas? C'est comme le péché dont Jean parle et on ne sait pas de quel péché il parle. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne vous concerne pas? Tant que ça concerne les autres, on n'en a rien à cirer, mais quand ça nous concerne, nous? Ça fait autant de bien que ça de se faire jeter avec le haut du bain? Je ne sais pas. Hein. Peut-être que si on commence à envisager qu'on peut être dans le cas nous aussi, nous allons prendre conscience de ce que nous avons oublié lorsque cette parole ne concernait que les autres. Mes amis, c'est la Bible elle-même qui nous apprend à nous opposer à de telles paroles. À la suite, je l'ai dit, d'Abraham, de Moïse, qui a intercédé pour le peuple. Très comique, hein. Seigneur Moïse a dû vous rappeler dans l'Exode. C'est ton peuple, ce sont tes enfants, ce ne sont pas les miens. Moi, il me... Hein ? Voilà. Reprends-moi, tue-moi, j'en ai ras-le-bol. Et Dieu dit, ça va, je vais les dégommer, en fait, je vais les anéantir, et de toi, je tire une grande... Tu vas pas faire ça, tu ne vas pas les anéantir. Hein. Mais prends ma vie alors à la place des leurs, vous voyez ? C'est le même Moïse, vous voyez le cœur ? Ce peuple leur pompe l'air, ce qui m'arrive parfois aussi, mais très vite, mais tu ne vas pas faire ça. Non, mais ça arrive à tout le monde, hein, je suppose. Hein, voilà. Mais ce n'est pas possible, parce que Moïse, il est habité par ce Dieu qu'il connaît, qu'il a appris à connaître. On pourrait parler de Ruth, de Job ou même de Jonas, hein, qui finit par faire ce qu'on lui demande. Quoi. Autrement dit, chaque fois que vous tombez sur ce genre de parole, c'est un principe hein, qui est vraiment terrible, parce que cette parole est terrible, il ne faut pas la nier, cette parole. Elle existe bel et bien, elle vous dit quelque chose. Hein. Mais il faut toujours s'en référer à toutes les autres paroles qui concernent Dieu. Quel genre de Dieu prononce cette parole ? On le connaît, c'est un Dieu d'amour, c'est ce que Jean dit. Qu'est-ce que ça veut dire quand un Dieu d'amour dit « ce péché-là, je ne le pardonnerai pas » ? Il faut en venir à quoi ? Fondamental, il est amour. Mais j'anticipe un peu. Il ne faut donc jamais se taire face à notre angoisse, ni faire taire notre conscience. Il ne faut jamais nous courber sans un cri, sans dire quoi que ce soit, devant ce que nous ne comprenons pas. Si vous croyez profondément en Dieu d'amour, cette parole devrait vous faire hurler. Ce n'est pas possible que le Dieu que j'ai rencontré prononce cette parole, même s'il la prononce. Et c'est là que vient la seconde question. Seconde, donc il n'y en a pas de troisième. Et c'est donc l'apôtre Jean qui amène ici sa pierre, si on peut, pas pour l'acheter sur la tête des autres, hein, à l'édifice. Je précise, hein, vu le contexte. Je reprends ce passage. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort, il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Voilà Jean qui nous parle d'un péché qui conduit à la mort et pour lequel on ne peut plus prier. Alors encore une fois, Jean parle-t-il du même péché que Jésus ? Contexte aidant, et je me mouille, c'est très peu probable. Je vais le dire simplement. Si Jean avait à l'esprit, c'est le cas de le dire, le péché contre le Saint-Esprit, croyez-moi, il l'aurait nommément explicité. On ne laisse pas dans le vague des questions pareilles. Il faut faire confiance au Saint-Esprit qui a participé à la rédaction des textes aussi, hein, ça joue, hein, puisqu'on parle de son péché, du péché contre lui-même. Et nous voici dans ce cas-là, donc si ce n'est pas du même péché que Jean parle, non plus avec un péché impardonnable, mais deux. Et ça fait donc du coup mentir Jésus, qui dit qu'il n'y en a qu'un. Bon, alors sans compter qu'en ce qui concerne celui dont Jean parle, je le répète encore une fois, les théologiens ne sont absolument pas d'accord entre eux quant à l'identification de ce péché. Et c'est pour ça qu'il continue à pécher allègrement. Alors rendez-vous compte, hein, ils ne savent pas, alors que ça touche à la damnation éternelle de certains. Si on croit à la damnation éternelle. Je ne rentrerai pas dans ce cadre-là. La parole de Dieu nous laisserait-elle aveugles sur de telles questions ? Alors, sur des points de détail, admettons. Mais mes amis, on parle ici d'essentiel tout de même. Donc, cette parole de Jésus et cette autre de Jean, j'en viens à mon principe, pose les conditions, en fait, de cette question. L'évangile de Jésus-Christ ne contredit-il pas de telles paroles ? Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut lire l'Évangile, on peut lire la vie de Jésus, écouter son enseignement, son attitude, et faire coïncider tout ça avec cette parole ? Parce que cette parole doit avoir un sens. C'est le Fils de Dieu qui la prononce. Un sens possible, et il faut alors le chercher. Mais ce n'est peut-être en même temps une parole, ça ne peut être, pardon, en même temps une parole de Jésus et une parole qui ferme à toute espérance. On ne peut pas dire c'est une parole de Jésus en même temps dire c'est foutu. Parce que toute parole du Christ ouvre à l'espérance. Elle ne ferme jamais à l'espérance. C'est son ministère. Car c'est Jésus qui dit ça. Lui dont le message donc est l'amour du Père et son pardon et qui donne sa vie pour la rançon des hommes. Et ce message, il le dit, il les fait venir, hein, ceux qui pensent ce qu'ils pensent au sujet de ces délivrances démoniaques. Il leur dit tout ça en enseignant, en les enseignant. Or son enseignant, nous dit Joachim Jeremias, un théologien allemand, spécialiste du Nouveau Testament, est l'enseignement de Jésus, est une interpellation personnelle de l'homme. Autrement dit, Jésus ne prêche pas pour placer devant les hommes des vérités de nature à les renseigner sur leur état présent, sur leur sort éternel, mais pour les appeler, à force d'amour ou même de colère parfois, à la repentance et au salut. Jésus, je vais le dire autrement, Jésus n'est pas un philosophe. Il n'élabore pas des principes à jeter à la tête des gens. Ce n'est pas Bouddha, Jésus. Hein. Cette parole concernant le blasphème contre l'esprit, nous l'avons tous entendu prêcher par des prédicateurs, moi compris, à une époque, qui contemplaient à travers elle leur salut à la lumière des flammes de la perdition des autres. Pour tout cela, et je ne juge pas, cette parole de notre Seigneur semble être décidément une parole fermée sur elle-même, une parole prison en quelque sorte. La question se pose donc, terrible peut-être, est-il concevable qu'elle le soit aussi pour Jésus, que cette parole soit une prison, que pour Jésus cette parole n'ouvre sur rien d'autre que la mort ? Et sinon, si ce n'est pas le chemin, si ce n'est pas le chemin de la fermeture qu'il faut prendre, que signifie cette parole dans sa bouche ? Alors, j'en ai pris trois autres des paroles pour essayer de vous faire réfléchir. Parce que nous pouvons exactement nous poser le même type de question à propos de bien d'autres paroles que Jésus a prononcées. Et j'en ai pris trois. Je ne suis pas venu appeler des justes. « Va-t'en arrière de moi, Satan », c'est une parole que Jésus dit à Pierre, « et ceux-là s'en iront au châtiment éternel ». Ça, l'histoire du verre d'eau, là. C'est dans l'évangile de Matthieu. Vous rappelez ? Pas trop explicité, vous voyez la parabole. Il dit quand même que ceux qui ne l'auront pas offert un verre d'eau, ils vont passer à la trappe, hein, dans cette parole-là. Il faut bien comprendre que Jésus n'est pas semblable aux scribes, sa parole ne fige pas la vérité dans le marbre des doctrines et elle ne scelle pas dans la malédiction le destin des hommes. Comme le dit si bien Jean Valette, pasteur Cévenol, donc dans des Cévennes, pour ceux qui oublieraient le sens du terme Cévenol. Là, cette parole, elle n'est jamais la pierre tombale qui se referme sur eux, donc sur les hommes, mais la lumière qui les appelle à la vie. Elle est toujours ouverte, toujours invitation, y compris quand elle juge et condamne. Quand Jésus condamne, c'est encore et toujours une invitation à la vie, jamais à la mort. Parce qu'à la différence des scribes et de bien des prédicateurs de l'Évangile, moi parfois compris, elle ne saurait blesser sans le blesser lui, donc Jésus. Et c'est pour cette raison qu'elle frémit toujours d'une espérance secrète en prononçant ses plus terribles menaces. Plus la parole de Dieu est redoutable, plus elle est dite avec la passion de tout faire pour qu'elle ne s'accomplisse jamais, qu'elle ne se referme pas sur l'homme comme un piège, mais le réveille comme un coup de fouet. Quand vous fâchez sur votre enfant, vous le faites pourquoi ? Quand il fait l'andouille, pour qu'il arrête de le faire ? Non ? Ou vous vous mettez en colère pour le plaisir ? Autrement dit, dire aux scribes qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les gens injustes, ce n'est pas les rejeter, parce qu'eux se situaient dans les justes. Il ne dit pas ça pour rejeter les soi-disant justes. Parce qu'en faisant ça, si Jésus faisait ça, il ne ferait que les imiter, ceux qui excluent les autres. C'est au contraire les appeler à comprendre qu'ils passent à côté de la grande joie du royaume qui vient et les convier à venir le rejoindre dans la compagnie de ceux qu'ils appelaient encore de tous leurs vœux des pécheurs. Pécheurs dont Jésus leur invite à partager la gloire future. Oui, parce que dans le royaume, il n'y aura que des pécheurs glorifiés. C'est fou ça, hein ? C'est ça, une bonne nouvelle pour nous. Hein. Parce qu'aucun homme ne peut adresser ce vocable pécheur à un autre sans qu'il ait d'abord reconnu en être un lui-même. Alors dire Satan, il dit quand même à rire de moi Satan à Pierre. Quoi. Mais quand il dit ça à Pierre, vous aurez bien compris qu'il n'est pas en train de livrer Pierre à Satan. Hein. C'est l'avertir qu'il est sur le chemin fatal où il va mettre sa parole d'homme non plus au service de l'Évangile, mais à celui de l'ennemi de l'Évangile. C'est le rappeler à sa vocation. « Pierre, tu es un homme de Dieu, tu es mon disciple. Cette parole est indigne de toi, indigne de moi, indigne de ta vocation. Tu ne peux pas prononcer de telles paroles parce que tu vas à l'encontre de la pensée de Dieu. C'est dur, mais s'il veut perdre Pierre ou l'exclut en disant ça, bien sûr que non. » Il veut le réveiller, prend un autre chemin que celui-là. Puis, troisième phrase que j'ai évoquée, « Et ceux-là s'en iront au châtiment éternel. » Ce n'est pas anticipé, cette phrase, ce n'est pas une anticipation sur le jugement dernier, qui ne nous regarde pas, d'ailleurs, qui est une affaire entre le Père et son Fils. C'est avertir ceux qui se détournent de leurs frères malheureux, c'est le contexte de cette parole de Matthieu, en assumant peut-être avec zèle leur devoir religieux, je suis un être religieux, mais je n'offre même pas un verre d'eau à celui qui en a besoin. Faire ça, et on le fait parfois, c'est totalement inconscient de ce qui se passe vraiment dans notre cœur. Forcément, pour réveiller une personne qui fonctionne comme ça, il ne faut pas leur faire. On va devoir rentrer dedans. Ben oui. Et c'est ce que Jésus fait. Parce qu'en agissant comme ça, c'est le message que je veux faire passer, ces hommes se séparent eux-mêmes de Dieu en prétendant être proches de Dieu. Ils s'en séparent de Dieu parce qu'ils ne sont même pas foutus de poser un acte de bienveillance envers quelqu'un. Et cette parole est terrible. Elle est terrible, cette parole de Jésus. Déjà aux pharisiens. Parce que quelque part, ils vont vers le châtiment éternel dans le sens où, sur cette terre déjà, ils sont en enfer, parce que l'enfer, mes amis, c'est l'absence d'amour. C'est ça l'enfer, hein, ici. Les gens malheureux ici, ils sont en enfer parce qu'ils ne sont pas aimés. C'est ça, l'horreur absolue, ne pas être aimé. Donc la pire des condamnations, dans la bouche de Jésus, n'est jamais une conclusion, mais un appel suprême, fondamental à la repentance et au salut. Change de route. Vous vous rappelez encore cette semaine qu'on n'arrête pas de rappeler les mêmes choses. Ben, tant que les gens ne changent pas de route. Le poteau indicateur, il va toujours indiquer la même. Hein. Vous ne mourrez pas. C'est fatigant pour moi surtout. Hein, mais je me prêche à moi-même aussi, vous le savez. Je ne vais pas répéter ça. C'est moi qui parle, mais je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Parler de péché impardonnable, ce n'est donc pas enfermer les scribes dans la condamnation définitive liée à ce péché, même si Marc semble prêt de le faire. C'est les avertir du caractère impardonnable de l'attitude qu'ils ont prise. Ce que vous faites, ce que vous vivez est impardonnable. Mais en disant ça, il les appelle à y renoncer, en fait. Que faisons-nous d'ailleurs d'autre quand nous disons à quelqu'un que nous aimons « ce que tu fais est impardonnable » Vous n'avez jamais dit ça à personne, vous. Qu'est-ce que d'autre sinon une tentative ultime d'éviter à notre ami ou à notre proche de continuer à faire ça. Combien de fois, à titre personnel, n'ai-je pas prononcé cette phrase ? Ce que tu fais est impardonnable, est inacceptable. C'est invraisemblable le nombre de fois que j'ai dit ça. Et certains de ces personnes l'ont fait malgré tout. Ça, c'est vraiment le côté chouette de ce que je fais. Ils l'ont quand même fait. Ou on continue à le faire. Et j'ai continué à dire ce que, me semble-t-il, l'amour me commandait de dire. J'ai continué à taper sur la table. Et sur leur tête aussi, parfois. Parce que la table, c'est plus dur qu'une tête. En fait. Toutes ces personnes, pour la plupart, font encore partie de ma vie aujourd'hui. Car si je ne cautionne pas, et j'avertis parfois même avec la passion qui me permet l'amour, je pense, même si je râle souvent, ne jamais abandonner. Et mes amis, mais qui suis-je et qui êtes-vous, si vous avez déjà prononcé ce genre de phrase, qui suis-je par rapport à Dieu, par rapport à Jésus ? Que vaut mon amour au regard du sien ? Alors, il lui abandonnerait là où moi je m'accroche, vous êtes fous, quoi. Il jetterait les gens là où moi je ne les jette pas. Je serais plus miséricordieux que Dieu lui-même. Vous seriez plus miséricordieux que Dieu. Vous aimeriez plus fort que Dieu. Il faut arrêter de rêver, hein ? Non ? En ce qui me concerne, en tout cas, mon intelligence, si, se refuse à une telle pensée et mon cœur ne s'y résout pas. Et c'est très bien. Et aucun de nos cœurs habités qu'ils sont par l'Esprit de Dieu ne pourrait se résoudre à ça. Admettre même une seule fraction de seconde que nous puissions aimer plus fort que Dieu, pardonner plus fort que lui. Alors Jésus, c'est intéressant dans ce passage, hein, concernant le péché contre le Saint-Esprit. On est tellement cadré par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on nous a dit, et par une lecture pré-mâchée de la Bible, qu'on finit par ne plus ouvrir le texte et même ne plus écouter le texte. J'aurais pu commencer par là et ça aurait pris 3 minutes, hein, mais ça aurait été moins drôle. Sans doute, surtout pour moi. Jésus, mais on ne le remarque pas en fait, ne dit pas aux scribes qu'ils ont commis ce péché-là. C'est surtout visible dans le grec. Il ne dit pas qu'ils ont. Il dit pas aux scribes, vous avez. Non. Il dit quiconque commet ce péché-là, il ne dit pas qu'ils l'ont commis, malgré ce qu'ils ont dit. Et s'il ne le dit pas, on ce n'est pas par diplomatie ou par prudence. Jésus, il n'est pas vraiment prudent et il n'est pas diplomate. On va faire un peu de grammaire. La forme impersonnelle que Jésus emploie dans les 3 synoptiques, donc dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, dans l'expression « celui qui », donc il dit « celui qui ». Et les formes verbales qu'il utilise, c'est le subjonctif chez Matthieu, comme ça vous savez, et chez Marc, et le futur chez Luc. Donc les 3 cas expriment un avertissement de portée générale en même temps qu'une éventualité, parce qu'elle est introduite par une préposition grecque « os », comme un os, quoi. Ça ouvre cette préposition à une éventualité dans le grec. Pas une condamnation, à une « si », c'est une conditionnelle. Autrement dit, cette parole est redoutable, c'est vrai, et elle doit forcément faire réfléchir ceux à qui cette parole est adressée, mais elle se distingue clairement d'une condamnation portée sur ces personnes. Cette parole terrible du verset 29 de l'évangile de Marc ne tombe pas sur les scribes comme un couperet, contrairement à ce qu'on pense. Au même titre que celle concernant ceux qui se détournent de l'amour qu'ils doivent à leur prochain, c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa lettre, cette parole se veut une parole d'évangile. Une parole qui veut les mettre en mouvement, les faire sortir de leur certitude afin qu'ils décident, car il est encore temps, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors, s'ils la saisissent, on va être dans le conditionnel, si ces hommes la saisissent, cette parole, ils en prennent une et bang, et ça remet leur tête à l'endroit, et surtout leur cœur, comme un juste jugement sur leur attitude, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, c'est une sentence qui est posée par le seul juste qui ait jamais foulé cette terre, hein, je précise quand même. Hein. Alors, cette parole ne sera pas leur condamnation, mais paradoxalement, le moyen ultime de leur salut. C'est grâce à cette injonction terrible qu'ils finiront par être sauvés. J'ai souvent dit, quand il faut un bisou, il faut un bisou. Hein. Et quand il faut une claque, il faut une claque. Hein. Ça, c'est plus très, trop à l'air du, dans l'air du temps, mais je suis désolé. Donc, ces hommes doivent prendre garde, pardon, c'est vrai, parce que leur religion est au bout de sa route, elle est sur le rebord du gouffre. Car alors que la foule ignorante et à demi païenne se montre sensible à la puissance divine qui se manifeste dans l'expulsion des démons et s'ouvre ainsi à la lumière de l'Esprit Saint, eux, les gardiens de la révélation, c'est ça qui est terrible, ils ne voient dans cette œuvre de Jésus que l'œuvre du démon. Ils auraient dû être les premiers à reconnaître la lumière qu'il y avait en Jésus. Et c'est là, je reviens à mon notion de signe, c'est là qu'il faut comprendre que les évangélistes n'utilisent pas le mot signe, séméon, c'est près de Sémoun, ça, pour parler des miracles, mais le mot dunamis, alors vous allez me dire, on s'en fout, non, pas d'importance. Si, ça a d'importance. Le signe n'est pas donné pour que la personne croie. Mais le miracle, dunamis, le miracle devient un signe lorsque la personne, par la foi, discerne quelque chose de plus grand que le miracle. À savoir ici, Jésus qui produit le miracle. C'est le cas, par exemple, des 10 lépreux guéris par Jésus qui s'en vont au temple pour faire constater leur guérison par les autorités du temple, conformément à la loi de Moïse, c'est ce que Jésus leur demande de faire. Mais seul, dit l'Évangile, l'un d'entre eux revient vers Jésus pour l'adorer. 1 sur 10 a vu par la foi un signe dans le miracle de sa guérison. Et il s'est ouvert à la foi. Le miracle ne devient un signe qui mène à la vie que par la foi. Pour que le miracle devienne un signe, il faut autre chose que le miracle brut, il faut la foi. Les docteurs d'Israël n'avaient donc pas la foi. C'est étonnant, ça, comme si on en doutait. Ils n'avaient pas la foi. C'est le sens de la grande majorité des paroles que leur adresse Jésus. Vous n'avez toujours pas la foi. C'est d'ailleurs ce qu'il leur dira en apothéose lorsqu'ils lui demanderont un signe pour qu'ils puissent croire. Quel signe fais-tu pour que nous croyions en toi ? Sans blague, j'en ai fait déjà des milliers. Quoi. Rappelez de ce passage. Hein. J'ai terminé, parce que je suis long aujourd'hui. Il ne leur sera donné que le signe de Jonas, la résurrection, qui, elle, nécessite la foi pour y croire, que le dunamis devient un séméon. Donc peut-on aller plus loin dans la résistance à l'esprit ? Ne voit-il pas qu'ils ont levé le pied pour poser le dernier pas qu'il leur reste à faire vers le gouffre ? Eux seuls, désormais, peuvent répondre à cette question. Mais ils le peuvent encore. J'ai envie de dire, tant qu'ils sont vivants, ils ont l'occasion de se remettre en question. Nous sommes le deuxième dimanche du temps de Pâques. J'aimerais donc terminer en disant ceci. La résurrection est un événement de la justice de Dieu. Mais ça veut dire quelque chose. Hein ? Si la résurrection est un événement de sa justice, ça veut dire que le mal, la condamnation, l'abandon, la violence n'auront pas le dernier mot, car le supplicié est glorifié, le condamné est réhabilité, il est ramené à la vie. En réfléchissant à ça, il y a cette finale d'une prière d'Ignace de Loyola qui m'est revenue à l'esprit. « Donne-moi seulement de t'aimer. » Ne serait-ce pas là la prière pouvant nous sauver et sauver le monde de ses péchés, que nous demandions véritablement l'aide de Dieu pour pouvoir l'aimer. Et je termine enfin par cette parole de Wilfred Mono, pasteur réformé et fondateur de la Fraternité des Veilleurs. Et ça nous a interpellé, je pense. L'Église véritable n'est pas dans la doctrine, dans les dogmes, dans l'institution, dans l'histoire des conciles, mais elle réside bien plutôt dans le silencieux et interminable cortège des âmes pardonnées, consolées, purifiées, inspirées. Le vrai moteur de l'histoire de l'Église se trouve dans sa constante régénération par la vie et l'interpellation de ce qu'il appelle une nuée de témoins. Et j'ajoute, témoins de l'amour sans fin de Dieu pour les hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.